EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette semaine, c'est aussi votre émission d'encouragement, de correction, d'orientation à travers des paroles venant des paraboles, des enseignements de Jésus-Christ. On s'est décidé cette semaine de nous laisser être juste touchés par la parole de Dieu, de laisser le Seigneur nous parler. Et pour ça, on a utilisé les paraboles de Jésus-Christ. 5 paraboles seulement. On a pris plaisir à les retitrer un peu pour le regarder autrement et se dire qu'est-ce que Dieu peut nous dire à l'intérieur. Parce que vous savez, la parole de Dieu est insondable, elle ne s'épuise jamais, elle n'a pas de fin. Même si c'est une histoire qu'on connaît, on peut toujours découvrir autre chose à travers le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons apprendre au sujet d'une parabole que moi j'ai intitulée « La parabole de l'amour qui refuse d'abandonner ». C'est quoi ça? Alors, let's teach, grandissons ensemble. Il faut donc aller chercher dans Matthieu chapitre 18, versets 12 à 14, pour comprendre de quoi je veux parler. Matthieu chapitre 18, versets 12 à 14. Que vous en semble? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Luc chapitre 15, versets 3 à 7 dit la même histoire. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il ait trouvé. Lorsqu'il l'a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi ». Car je retrouvais ma brebis qui était perdue. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Belle image, n'est-ce pas? On a ici la même histoire qui est racontée avec deux approches légèrement différentes. La première fois dans Matthieu, on voit qu'on veut montrer que Il y a eu 100 brebis, voilà, dans le troupeau. On en a perdu un, on l'a retrouvé. Il y a une grande joie et le père ne veut pas qu'un seul se perde. Dans la deuxième histoire, même réalité, mais cette fois-ci, on montre que la personne, quand il a trouvé cette brebis, elle va se réjouir avec ses voisins, les appels, il y a une réjouissance communautaire. Et il montre que lorsque une personne qui était perdue est retrouvée, celle qui est pécheur, Dieu la récupère. Ça donne plus de joie que le fait simplement de voir de justes en continuant à être justes. Alors, s'il faut comprendre ce texte, vous avez besoin de vous souvenir de 2, 3, 4 choses dans le contexte de Jésus-Christ. À cette époque-là, vous devez savoir que les bergers, ils avaient souvent de troupeaux dans le grand air. C'était à l'air libre, en fait. C'est pas comme s'ils avaient leur propre coin, des petites cabanes où ils mettaient les brebis le soir. Non. C'était pas comme ça. Ils n'avaient pas nécessairement des enclos où ils gardaient tout. Non, pas toujours. Pour paître les brebis, c'était à l'air libre. C'était pas dans leur concession ou leur propriété, leur ranch. Non. C'était à l'air libre. Ils les promenaient comme ça. Et dans cet air libre, souvent, environnait la quantité de sang. Ils environnaient la centaine par berger. Ici, Jésus-Christ a donné un chiffre rond pour que le calcul soit clair et simple, mais c'est la centaine. Ça ne veut pas dire que tout le berger avait le chiffre exact de 100 brebis. Mais Jésus-Christ donne un chiffre symbolique ici, de 100, pour montrer un peu la plénitude, pour dire qu'ils étaient complets. Et comme ça, quand ils vont enlever un, on ressent que c'est incomplet. Et c'est le 1 qui fait que 100 cesse d'être complet. Mais perdre une brebis à l'époque n'était pas une chose facile. Ça veut dire que lorsque vous perdez une brebis en tant que berger, vous étiez considéré comme incompétent et ça entachait votre CV, si je dois appeler ça comme ça. Ça veut dire que la réputation du berger était entachée énormément par le fait de perdre une brebis. Qui d'autre va vous engager? Qui va vous engager encore à vous occuper de ces brebis pendant que vous perdez des brebis d'autrui? Ça veut dire que vous n'avez pas eu la capacité d'être vigilant, vous ne savez pas protéger les brebis, ça en dit beaucoup sur vous, vous êtes distrait. Alors, perdre une brebis pour un berger, c'est une erreur grave, une faute grave professionnellement parlant. Mais quand on regarde très bien, on sent que les éditeurs de Jésus comprennent ce qu'il veut dire par berger. Berger, brebis, c'est pas la première fois qu'une image comme ça s'est présentée. Dans le judaïsme, c'était clairement connu de tous que Dieu s'est présenté dans la Bible comme étant le berger de son peuple et qu'Israël était son troupeau. L'image donc d'avoir un berger, un brebis, c'est pas Jésus qui le commence. N'est-ce pas David qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Dieu qui parle du peuple d'Israël comme son troupeau. L'image donc de berger, de troupeau, est assez familier. Et familière, devais-je dire, aux yeux et aux oreilles de l'auditoire de Jésus-Christ. Mais quand on regarde ces paraboles qui sont répétées ici en fait, on peut déduire certains éléments forts, des éléments clés que Jésus met en avant la façon de raconter les faits. Premièrement, il parle des brebis, bien sûr, c'est clair. Il parle de brebis, l'image des croyants, des enfants d'Israël, des personnes vulnérables, dépendants de Dieu. Ça part juste du peuple de Dieu qui lui est dépendant, qui doit suivre les pas du Seigneur. Des enfants de Dieu qui doivent suivre la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui les nourrit. C'est le Seigneur qui les fait sortir, qui les amène dans le vert pâturage, qui leur donne à boire et à manger. Ce sont des animaux dépendants et fragiles. C'est ça que sont les enfants d'Israël et c'est ça que sont les croyants, les chrétiens. Et après vient l'image où, dans le sang qui est complet, il y en a une qui est perdue. Le terme ici qu'utilise Christ quand il dit qu'une brebis est perdu ou égaré, c'est pas juste de l'égarement simple. C'est pas juste qu'une brebis qu'on ne voit pas. Non. Dans l'idée de ce texte-là, de ce mot-là, il y a l'idée que la brebis est menacée. Elle est menacée de destruction. Elle a disparu dans des contextes où elle est exposée au danger. Elle est exposée au danger. C'est pas seulement que on la voit pas, elle est sous les herbes, on va la voir bientôt. Non. Ça veut dire où est-elle? Elle peut être tombée, elle peut être en train d'être déchiquetée maintenant là par un loup. La brebis n'est pas seulement au milieu des troupeaux, la brebis est en danger. C'est ça l'idée d'égarer ici. La brebis est en danger. Mais il montre aussi l'idée de chercher. Cette parabole montre la pensée de chercher. C'est pas que brebis perdue, mais on doit la chercher. Ça signifie faire une quête bien, je vais dire bien intentionnel, dans les détails. On est actif, on est persistant. On se dit pas, elle peut être où? Non. On fait vraiment de l'Indiana Jones, on va dans les détails. Où est partie la brebis? Ça me rappelle chaque fois chez nous à la maison quand j'ai dit à mes enfants, mais je retrouve pas telle chose. Ma fille, ma deuxième fille a toujours cette habitude, elle vient me voir. Elle dit, ok papa, quelle est la dernière fois que tu avais vu cette chose? J'ai dit, comment ça? Quelle est la dernière fois que j'ai vu? Je vais m'en souvenir. Il dit, non, la dernière fois que tu as vu, tu étais où? Elle reconstitue. Il dit, il faut qu'on reconstitue la scène des crimes. J'ai dit, ça, c'est trop de télé, ça. Elle veut chercher ça dans les détails, elle va voir les éléments, elle veut faire l'enquête en profondeur. Il s'agit en fait de ça, l'idée ici. On se dit pas seulement, ah, on était où? Non, on cherche, on remue les endroits, on est actif, on travaille, on veut trouver, la volonté de trouver est forte. La quête est active. Mais il apparaît aussi, en fin de cette histoire, chaque fois une réjouissance. On est content. La joie que donne cette brebis est plus grande que celle que donnent les brebis qui étaient là. Au début, on a l'impression, mais franchement, est-ce qu'il est en train de dévaluer les 99 autres? Non. Il est juste en train de dire que lorsque une est manquante, la joie n'est pas complète. Et le fait de la retrouver donne plus de joie même d'avoir été garanti d'avoir 99 autres. On voit à chaque fois une réjouissance. Ici, d'ailleurs, quand vous le regardez, on l'a lu dans Luc, vous vous rendez compte que c'est une joie communautaire. C'est pas lui seul qui se réjouit. Il appelle les voisins, il dit « Venez, réjouissez-vous avec moi, parce que la brebis que j'avais perdue, je l'ai retrouvée. » Waouh, c'est beau de voir ça. Que Dieu a envie d'appeler les autres, dit « Venez. » Vous savez, quand Dieu est content de vous avoir, il appelle même les diables. La Bible dit, le Seigneur a vu le diable était parmi les fils de Dieu, et puis le Seigneur lui dit « Satan, est-ce que t'as vu Job, mon serviteur ?» Dieu est si content de lui. Ici, l'image montre que le berger va chercher, va voir les voisins et dit « Oh, venez voir. Oh, je suis content, je vais vraiment fester. Je vais faire une fête, plutôt. J'avais une brebis qui était partie, qui était perdue, je savais plus où elle était. Je l'ai retrouvée. Quelle joie. Il est certes vrai que cette parabole illustre le cœur paternel, missionnaire, pastoral de Dieu. Dieu est en mission pour nous chercher. Dieu est un bon berger, un bon pasteur. Ça montre comment l'amour de Dieu est très personnel et persistant. Cet amour-là a pour but de nous amener de la joie. Et Dieu est content de nous quand il nous retrouve. Mais je voudrais partager avec vous quelques exhortations, 5 comme d'habitude. Des exhortations fortes que je pense que ça peut éveiller notre esprit et nous permettre aussi de faire la volonté de Dieu et de comprendre comment Dieu voit les choses. Premièrement, Dieu ne calcule pas en pourcentage. Il se bat pour chaque personne. C'est bien de le savoir. Écoutez, mon frère, Dieu ne fait pas un calcul général de majorité et de minorité. C'est dit pas en majorité, tout le monde a cru. Non. Alors ne faites pas ça non plus. Pour Dieu, son calcul, c'est chacun, personnellement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque, que le maximum qu'il pourrait, non. Chaque individu a reçu la possibilité et l'occasion. Dieu ne s'est dit pas, ok, je pense qu'on a quand même déjà un assez grand nombre. Quelles sont les statistiques en matière de chrétiens dans le monde? On a quand même une majeure partie de la population qui est chrétienne. Donc, Dieu dit, le voisin d'à côté, le petit garçon en cours de route, cette dame au coin de l'avenue, Dieu regarde individuellement les cas. Alors, vous ne pouvez pas vous dire, on a déjà une grande partie des gens qui sont chrétiens, je ne peux plus encore apporter l'évangile autour de moi. Les gens ont besoin de Dieu. Ils ont besoin de Jésus. Ce n'est pas une histoire de pourcentage. Bon, beaucoup de gens dans notre famille ont déjà cru au Seigneur. Non, il y en a encore 2 qui se pavalent encore. Il faut continuer à prier. Ne nous limitons pas au pourcentage, parce que Dieu, lui, ne fait pas ça. Il regarde individuellement les personnes. Tu n'es pas un statistique, un chiffre qui est caché dans un pourcentage devant Dieu. Dieu connaît ta vie personnellement. Tu es sa brebis. Tu n'es pas dans les brebis de l'Haïti. Il ne te voit pas comme une des brebis des îles. Tu n'es pas une de ces brebis de l'Europe ou d'Afrique. Tu n'es pas dans le pourcentage des auditeurs et des spectateurs, des téléspectateurs de MCI. Non, Dieu ne te regarde pas comme ça. Dieu te connaît, toi, Robert, Joseph. Dieu te connaît, toi, Nadine, Cynthia. Dieu te connaît, toi, individuellement, ton nom. Il a un projet pour toi. Il ne calcule pas des pourcentages et combien d'auditeurs. Dieu ne se dit pas ceux qui ont suivi le premier jour ou qui ont suivi une rediffusion. Non, Dieu vise toi individuellement. Ne te dis pas pendant que je regarde d'autres personnes regardent dans le monde. Non, 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 non. La façon dont tu regardes ça dans ton téléphone, la façon dont tu es en train d'écouter ça en podcast, la façon dont tu es en train de le suivre là devant ta télé, les autres ne sont pas là. Dieu ne vise que toi. Tu n'es pas un pourcentage, un chiffre dans un taux ou dans un lot. Tu as un but particulier et individuel de Dieu. Sache-le très bien. Ça signifie que quand il t'aime, il n'a pas jeté un amour là, en l'air, et chacun ramasse un peu. Il a prévu un amour individuel. dédié à ta personne. C'est ça, c'est que cette parabole nous montre. Ce n'est pas 99. 99 sont restés en termes de pourcentage, c'est même pas 89%. C'est oui, en termes de pourcentage, c'est ça, c'est 99% aussi. Tu as 99% des biens. Mais attends, tu passes l'examen. Dieu dit non. Le 1%, c'est pas 1%, c'est une brebis. C'est pas un pourcentage, c'est une brebis, elle est à moi, je suis le berger. Écoutez-les bien. J'aime bien la parabole, a dit Dieu ne veut pas. Il ne veut pas. Quand c'est de son côté, on doit savoir. C'est pas si les hommes veulent ou pas, mais Dieu de son côté, il ne veut pas que quelqu'un se perde. Jamais quelqu'un se perdrait sur cette terre en se disant, Dieu n'a pas fourni d'effort pour moi. Non. La volonté de Dieu est claire. Ce n'est pas seulement que les hommes ne se perdent pas, mais que chaque individu vivant sur la terre ne puisse pas aller dans la perdition. Deuxième vérité forte ici. L'amour de Dieu ne reste pas assis. Il part chercher jusqu'à ce qu'il trouve. L'amour de Dieu ne reste pas assis. Il part chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Dans cette parabole, le berger ne s'est pas dit, ah, la brebis, où est-ce qu'elle est partie? Bon, on a déjà les 99, on va juste les amener. Hein. Non, la Bible dit, il a laissé les 99. Waouh! Il a pris ce grand risque-là en faveur de la seule brebis. Il dit, je vais chercher. Je ne peux pas laisser comme ça. Il faut que j'aille. Je dois aller chercher. Je dois foncer. Il faut que j'aille. Il a foncé droit. Il dit, je vais chercher. Finalement, je veux finir par trouver. Et il l'a trouvé. Dieu n'est pas là les bras croisés en train de se dire, bon, je vois ce que tu peux fournir comme effort. Hein. L'homme s'est éloigné de lui. Quitter le ciel, il est venu sur la terre. Sauver l'être humain, c'est lui qui est venu nous chercher. L'homme, dans le jardin, entend Dieu venir, il fuit, il va se cacher. Dieu lui dit, mais tu es où? Ça a toujours été lui qui nous cherche. Et aujourd'hui encore, il te cherche. Tu es où? On ne te voit plus à l'église, on appelle, tu ne prends plus. Où es-tu? Oh, tu en as marre des pasteurs, ça t'énerve. Mais où es-tu? C'est pas un problème. Mais, et le Seigneur alors, et lui aussi, tu l'abandonnes? Où es-tu? Je ne sais pas où tu es. Tu t'es perdu. Les choix se sont entremêlés. Tu as fait trop de choix et tu ne sais même plus où tu es. Même là où tu m'écoutes maintenant, dans la pièce où tu te tiens, tu ne devais pas être là. Mais le Seigneur demande où tu es. Où es-tu? Il est là, en train de frapper à la porte. Il peut tout changer à partir de maintenant. Si tu acceptes de partir avec lui, si tu acceptes de rentrer dans la bergerie, les projets de Dieu sont meilleurs que ceux que les hommes ont conçus pour toi. Tu peux encore rebrousser chemin. Tu peux encore dire non. Tu peux encore changer. Tu n'es pas obligé qu'on ne te fasse pas croire que tu as déjà fait un pas de non-retour. Si là où tu es, tu entends sa voix. Si au moment où je parle, tu entends ce message, ça veut dire que tu as le choix d'endurcir ton cœur ou de simplement suivre. Ah, mais ça me coûtera cher. Ouh, ça te coûtera plus cher de continuer que de t'arrêter maintenant humblement et de reprendre le bon chemin avec Jésus-Christ. Dieu est d'un amour qui ne s'assied pas. C'est un amour qui s'élève et qui te cherche. Si on fournit tous ces efforts, émissions, radio, vidéo, tout ce qu'on fournit comme effort, c'est pour illustrer, traduire la recherche que Dieu a de ta personne. Il travaille activement pour savoir où tu es. Alors reviens. Si tu en sens, tu entends cette parole, reviens. La troisième vérité dit ceci. Le ciel fait plus de bruit pour un pécheur qui revient que pour 99 qui se croient justes. Jésus-Christ dit ceci. Il y a beaucoup de joie. Hein, d'ailleurs, la Bible dit encore que quand une âme se convertit, il y a la fête, les anges sont remplis de joie. Il dit, il va inviter les voisins, il va faire une grande joie pour celle qui est perdue. Ça a toujours été ça la logique de Dieu. Pour ceux qui pensent avoir déjà mérité, qui sont déjà dans le bien, qui sont déjà bien assis, pas de problème. Vous êtes juste, c'est OK. Quand un ne l'était pas et qu'il va le devenir, il est racheté, il y a une joie d'entrée. Si vous êtes devenu juste, sachez que le jour où vous aussi, vous étiez encore pécheur, le jour où vous avez traversé pour venir dans le camp de ceux qui sont rachetés. Ce jour-là, à votre compte, il y a eu aussi cette fête. Et cette fête-là, on doit la faire pour tous ceux qui sont pécheurs. Quand vous regardez un pécheur, dites-vous, oh, il y a une possibilité d'une fête ici. Vous ne savez pas combien Dieu serait content. Peut-être en m'écoutant aujourd'hui, vous avez toujours cru que Dieu est plus content pour ceux qui vont à l'église. Et quand vous le voyez passer en cours de route, vous dites, voilà, ceux-là au moins, ils sont la joie de Dieu. Moi, je ne suis qu'un raté. Moi, quand Dieu me voit, dit, celui-là, vraiment, il a raté sa vie. C'est peut-être ça que ton père te dit, ou ta mère, ou tes voisins te disent, que tu as raté ta vie. Regarde ce que tu es devenu. On te rappelle que tu avais de l'avenir, mais que tu as tout bousillé. Et tu regardes les autres qu'on admire, qu'on considère juste. Et tu t'es dit, c'est eux qui sont la plus grande joie de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Toi, tu peux réjouir le cœur de Dieu plus que quiconque si tu reviens à la maison. Toi, tu peux faire sa fête aujourd'hui si tu acceptes de prendre la main qui t'a tendue, de revenir à lui. Toi, tu peux faire une fête au ciel si tu acceptes de revenir là où il t'attend. Toi, tu peux être à sa plus grande joie. Les 99 ne l'intéressent pas pour l'instant. Oh, mais les autres là sont justes. Quand je les vois, ils paraissent vraiment être des saints. Les saints ne l'intéressent pas pour l'instant. Ce qui l'intéresse, c'est toi. Toi qui te considères injuste pécheur. Toi qui te considères sale. Toi qui te dis, j'ai commis une bêtise grave. C'est toi qui l'intéresse. T'es récupéré, toi, serait sa plus grande joie. Non, mais je préfère même pas venir au culte. Dieu doit rester avec ceux qui sont au culte. Ceux-là sont justes. Moi, je préfère rester seul. Ouh, si tu savais, c'est pas le culte qui l'intéresse pour l'instant. C'est toi, là, en train de tenter de reculer, de ne pas vouloir venir. C'est toi qu'il cherche. Tu ferais sa plus grande joie. Tiens, j'ai deux autres sujets à dire. Mais je sens dans mon cœur que j'aurais pu utiliser ce moment pour autre chose. Pour aider quelqu'un à se reconnecter. Puis-je prier pour vous? Seigneur, je prie pour mon frère ou ma sœur qui m'entend maintenant, qui est allé si loin qu'il ne voit plus le chemin de retour. Il ne sait plus par où rentrer. Mais toi, tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ramène-les à la maison. Qu'aujourd'hui, en ouvrant son cœur, il revienne vers toi. Si en m'écoutant aujourd'hui, vous n'aviez jamais donné votre vie à Jésus, vous n'aviez jamais pris cette décision de suivre une vie selon la parole de Dieu, de vivre pour la gloire de Dieu, eh bien, c'est aujourd'hui de prendre cette décision. Et moi, je prie pour vous que votre cœur ouvert reçoive la vie de Dieu. Le Seigneur vous aime. Il veut de vous encore dans sa présence. Mais aussi, je parle à quelqu'un qui est déjà dans la foi, mais qui a commis tellement d'erreurs, qui se demande si retourner, c'est encore possible. Je me hâte de le dire, c'est encore possible. Le Père sera tellement content si tu revenais à la maison. C'est ma prière, Seigneur, pour toutes ces brebis perdues qui crient de loin. Va les chercher, comme tu l'as promis. Ramène-les à toi, parce qu'ils t'attendent. Ils soupirent, j'ai tant besoin de toi. Ils soupirent, viens-moi en aide. Seigneur, merci d'accomplir ta parole à ta gloire, au nom de Jésus. Amen. J'ai encore quelques minutes. Et j'ai encore deux choses à vous dire. Quatrièmement, si tu étais la seule âme perdue, Jésus serait quand même venu mourir pour toi. C'est ce que cette parabole met en exergue. S'il n'y avait que toi, t'es perdu, s'il n'y avait que toi, Jésus venait en se disant, bon, Père, tu as perdu quoi pour que ça vale le sacrifice de quelqu'un comme moi? Il dit, ici, il osait dire, j'ai perdu Robert. Il dit, bon, ok, je descends pour Robert. C'est ce que ça signifie. Dieu dit, si j'en avais perdu qu'un seul de tous mes enfants, eh bien, ça allait quand même valoir la recherche. Jésus serait mort à la croix que pour toi, s'il le fallait. Ça, c'est le prix. Ça, c'est la véritable valeur que tu as aux yeux de Dieu. Ou si tu pouvais savoir combien tu es précieux à ses yeux. Et cinquièmement, la dernière de choses, c'est que le signe d'un vrai berger, ce n'est pas de compter ses brebis présentes, mais de chercher celles qui manquent. Jésus montre ici un bon réflexe d'un vrai berger. Ce n'est pas juste de compter les brebis présentes, mais de chercher celles qui manquent. Le berger qui est capable de dire, ah, j'en ai 10, j'en ai 200, j'en ai 300, j'en ai 500, c'est bien. Mais il faut aussi se poser la question, quelles sont celles que je n'ai pas? Oh, pasteur, je sais, quelquefois ça ne dépend pas de nous. Des fois, les gens décident de partir d'eux-mêmes. On n'est pas Christ, on a des limites. Il y en a toujours un qui pense qu'on n'est pas comme on devait être et qu'il trouverait mieux ailleurs et qui trouve qu'il n'a pas le temps d'attendre, d'être patient avec notre changement et qui pense même qu'on ne changerait jamais en tant que pasteur et qui trouve en nous un diable et qui préfère nous laisser aller dans une autre assemblée ou participer à une autre foi chrétienne. Mais j'aimerais vous demander, pasteur, serviteur de Dieu, parent, leader, où que vous soyez, dans quel domaine que vous soyez, ne comptez pas seulement ceux qui sont avec vous. Posez-vous la question sur ceux qui s'éloignent. Comment vous pouvez les récupérer? Ne laissez jamais partir sans avoir intenté un moyen de les récupérer, de les ramener, de les récupérer avec vous. Parce qu'un bon berger, ce n'est pas celui qui compte combien sont là. C'est celui qui compte qui est absent. Comment le ramener à la maison? Êtes-vous l'absent que Dieu cherche? Vous êtes où? Comment vous avez passé votre soirée? Vous êtes réveillé ce matin avec une tête qui tourne tellement vous avez bu le soir et vous êtes dit, comment j'en suis arrivé là? Est-ce que vous avez pleuré ce matin en disant, Dieu, je l'ai encore fait et je me sens sale? Vous êtes arrivé au bout du gouffre? Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Vous en avez marre, c'est épuisant. Le travail vous a tellement épuisé et vous dites, ce travail m'a fait perdre ma vie de prière, j'ai donné le maximum de moi-même, ça m'a tellement éloigné de Dieu, le rythme a été si mauvais et le travail en question ne paye même pas ce que je voulais. Et en même temps, les conséquences sont devenues irréparables. Si vous ne pouvez pas réparer une oreille que vous avez coupée, Jésus peut la réparer. Je prie encore avec vous en terminant. Seigneur, mon cœur est pris de compassion. J'ai comme une certitude que je parle vraiment à quelqu'un. J'ai comme une certitude que ces phrases sont destinées à une âme qui pleure. Peut-être les yeux ne font pas couler les larmes, mais l'intérieur réclamait secours et disait, j'ai besoin d'aide, est-ce que les gens comprennent que j'ai besoin d'aide? Oh, toi qui vois dans les cœurs, vois cette brebis qui s'éloigne et qui s'égare, cette brebis qui est en danger, ramène-la à la maison. Comme tu as parlé à son cœur aujourd'hui, restaure-la, restaure ce frère, restaure cette sœur, ce papa, cette maman, ce pasteur que les gens ne voient même pas, qui continue à venir à la chair mais qui s'éloigne. Seigneur, restaure, rétablis cette relation, qu'une fête se fasse au ciel parce que quelqu'un qui était loin est revenu. Puisque ton amour n'abandonne jamais, ton amour ne lâche pas. Ça ne laisse pas en chemin en disant, bon, c'est 1 sur 100, 1 c'est rien. Lui, elle, en particulier, est l'objet de ta quête, la raison de ce message d'aujourd'hui. Fais que ton but soit atteint et que le cœur soit touché. Au nom de Jésus. Amen. Voyons-nous demain pour finir tout ça. Dieu vous bénisse.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.